nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette grande saga consacrée à Pink Floyd. Une saga de 6 heures qui a démarré le week-end dernier et qui s'achève maintenant avec cette dernière partie. Vous écoutez RTL, RTL.fr. Bonne nuit à tous. Mars 1994, qui est paru The Division Bell, produit par David Gilmour et Bob Ezrin. L'album propose 11 titres, presque tous enchaînés, dont le climat planant n'est pas sans rappeler leur plus grande réussite des années 70. David Gilmour nous explique la signification du titre de l'album, The Division Bell.
The Division Bell is a bell that rings in.
La Division Bell est la cloche qui appelle au vote les membres du Parlement, qui les divise entre ceux qui votent oui et ceux qui votent non. Tu peux prendre ce concept de division tel quel, y apporter une autre signification, ou même extrapoler autant que tu le désires. Nous, ce qu'on veut faire, c'est créer de la magie, tout simplement.
À peine sur le marché, The Division Bell est en tête de tous les hit parades, notamment aux États-Unis, où il se vend à 460 000 exemplaires la première semaine. La tournée qui suit dure 7 mois. Le groupe donne au total 110 concerts dans 77 villes aux États-Unis et en Europe, devant plus de 5 millions de spectateurs. Témoignage de leur statut de magicien du son, le double CD et la vidéo Pearls, qui sortent en juin 1995. 1995, qui a vu la sortie de Pearl, c'est aussi l'année où Youth produit Us and Them, une relecture symphonique de 10 compositions de Pink Floyd. De son côté, Roger Waters continue de travailler à un projet ambitieux, un opéra inspiré par la Révolution française, réalisé avec la collaboration d'Étienne Rodagil et baptisé Saïra. Cet opéra, qui aura nécessité 16 années de travail, sortira finalement en septembre 2005 sur le label Sony Classical. Dans l'intervalle, tout en préparant un nouveau disque, Roger trouve le temps de s'occuper de la promotion de l'album de Pink Floyd, The Wall Live. Pourquoi lui plutôt qu'un autre ? À l'entendre, la question ne se pose pas.
If you look at the program of this show, when we put it on in 1980,
si tu consultes le programme de ces concerts édités en 80, sur la couverture, on peut y lire The Wall,
written and directed by Roger Waters,
écrit et dirigé par Roger Waters, interprété par Pink Floyd, et juste en dessous, le nom des membres du groupe, point final. Donc si quelqu'un doit s'exprimer à propos de cet album, il vaut mieux que ce soit moi.
20 ans après la sortie de l'album studio The Wall, le double live inédit de Pink Floyd paraît en mars 2000. Il s'appelle Is There Anybody Out There, The Wall Live. Pourquoi ne l'avoir pas tout simplement appelé The Wall Live? Voici la réponse de Roger Waters.
Je crois que l'idée vient de la maison de disques, d'après l'un des morceaux qui figure sur l'album original, pour faire bien comprendre au public que c'est un produit différent. Ils ont pensé que ce serait bien qu'on lui donne un autre titre, Is There Anybody Out There? C'est un enregistrement en public des shows que nous avons donnés en 80-81 à Earl Court, mixé par James Guthrie, qui travaillait avec nous en concert à ce moment-là, et qui avait déjà coproduit et mixé la version originale, la version studio de l'album. La chose ne lui était donc pas étrangère.
You may feel a little sick.
Après la sortie du double CD The World Live, Roger Waters repart aux États-Unis pour la seconde partie de sa tournée In the Flesh. Plusieurs de ses concerts sont à la base un album live qui porte le même titre et qui paraît le 5 décembre 2000. L'année 2001 voit la sortie de deux compilations, The Best of Syd Barrett, Wouldn't You Miss Me, puis Echoes, The Best of Pink Floyd. Elles sont suivies par une troisième qui paraît en avril 2002 et qui est consacrée à Roger Waters, Flickering Flame, The Solo Years, volume 1. En 2004, c'est le batteur Nick Mason qui apporte son témoignage dans un livre autobiographique, Inside Out, A Personal History of Pink Floyd. On publie également un double CD accompagné d'un livre, Inside Pink Floyd, A Critical Review, 1967-1996. À ce moment, Roger Waters travaille à une adaptation de The Wall pour la scène à Broadway. Pour la bonne cause, les quatre musiciens de Pink Floyd acceptent de se retrouver à Londres à l'occasion du Live Aid. Cette réunion toute ponctuelle du groupe ne dure que 23 minutes, le temps d'interpréter quatre titres. Interrogé sur une possible reformation de Pink Floyd pour une tournée ou pour un disque, il laisse la porte ouverte à tous les cas de figure, sans donner de réponse précise. Même l'argent ne parvient pas à les décider. En tout cas, ils n'ont pas donné suite à une offre de 250 millions de dollars pour une tournée mondiale. Pink Floyd n'existe plus et pourtant, on n'en a jamais autant parlé. Toujours en 2005, on peut retrouver les débuts du groupe dans le DVD et le CD London 1966-1967. On an Island, le troisième album solo de David Gilmour, paraît le 6 mars 2006, le jour de son 60e anniversaire. C'est un succès instantané. Il entre dans le hit parade anglais directement à la première place et il est numéro 6 aux États-Unis. 7 juillet 2006, on apprend la disparition de Syd Barrett. Il meurt à l'âge de 60 ans des suites d'un cancer du pancréas. Depuis plusieurs années, le premier leader de Pink Floyd vivait reclus et se consacrait à ses deux passe-temps, la peinture et le jardinage. Lors de la mise en vente de sa maison de Cambridge, beaucoup d'admirateurs se sont pressés pour aller la visiter. Finalement, elle a été rachetée par un couple de Français, simplement parce qu'elle leur plaisait, alors qu'ils ignoraient totalement qui était Syd Barrett. Un concert en hommage à Syd Barrett a été organisé à Londres, au Barbican Center, le 10 mai 2007, avec Damon Albarn, Chrissy Hynde, Robin Hitchcock et Kevin Ayers. Les quatre musiciens de Pink Floyd y ont également participé, mais séparément. Retrouvons Syd Barrett en 1967, à l'époque où il était la force créatrice de Pink Floyd. Il chante « The Scarecrow », un extrait du premier album du groupe « The Piper at the Gates of Dawn ».
Disguised, not unkind, he doesn't mind. He stood in.
2006, pour la tournée de promotion de son album On an Island, David Gilmour est accompagné du clavier de Pink Floyd Richard Wright. Le batteur Nick Mason les rejoindra pour la dernière date. On retrouvera l'écho de ses concerts dans l'album Live at Gdansk, qui paraîtra le 22 septembre 2008. C'est le dernier disque auquel a participé Richard Wright, qui est mort une semaine auparavant, le 15 septembre 2008, à l'âge de 65 ans. Lui aussi a succombé à un cancer.
Summer Sunday and you.
Le 10 juillet 2010, Roger Waters accepte de rejoindre David Gilmour sur scène à l'occasion d'un concert de charité pour la Hoping Foundation. Pour le remercier, David Gilmour lui promet de participer à un des concerts de sa tournée The World Live. Ce sera chose faite le 12 mai 2011 à l'O2 Arena de Londres. David viendra chanter les deux premiers couplets de Comfortably Numb et interpréter les deux solos de guitare. À la fin du spectacle, Nick Mason les rejoindra pour une version commune de Outside the Wall. C'est la première fois depuis 2005 et leur participation au Live Aid que les trois musiciens survivants de Pink Floyd sont réunis sur la même scène. Voici Outside the Wall dans la version de l'album The Wall Live qui avait été enregistré au cours de la tournée 1980-1981.
Together in bands, the bleeding hearts and the urchins make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Floyd a toujours voulu préserver ses albums comme des entités intouchables et a longtemps refusé que les titres de son répertoire puissent être achetés à l'unité, notamment sur les sites légaux du téléchargement. Les musiciens ont fini par changer d'avis et le 4 janvier 2011, ils ont signé avec leur maison de disques, EMI, un contrat de 5 ans qui met un terme à ce conflit. Dans le cadre de cet accord, une opération baptisée « Why Pink Floyd » a débuté le 26 septembre dernier. Elle a pour but la reparution de tout le catalogue du groupe. Les 14 albums studio de Pink Floyd ressortent dans des versions qui ont été remasterisées sous la direction de l'ingénieur du son James Guthrie, qui avait été également le coproducteur de l'album The Wall. Cette opération se déclinera sous différentes formules, depuis des albums à l'unité jusqu'au coffret de luxe pour l'ensemble de la collection. Il y aura aussi une nouvelle compilation de 16 titres, The Best of Pink Floyd, A Foot in the Door, qui sortira le 7 novembre prochain. Voilà, cette grande, très grande saga consacrée à Pink Floyd est allée sur deux week-ends. Une saga qui aura duré 6 heures au total s'achève. Et maintenant, c'est le concours. Comme la semaine dernière, je vous propose de gagner le coffret Discovery qui contient les 14 albums studio de Pink Floyd remasterisés. Bien sûr, pour gagner ce coffret, il faut répondre à une question. Cette question est déjà en ligne sur notre site rtl.fr dans la grille des programmes à l'émission Saga. Pour les autres, ceux qui jouent par courrier, envoyez s'il vous plaît une carte postale à RTL Saga Concours Pink Floyd, 22 rue Bayard, 75 008 Paris. La question, quel est le titre du seul album de Pink Floyd qui a été enregistré sans le clavier Rick Wright. Voilà, je vous ai tout dit. Dans quelques instants, n'oubliez pas de changer vos montres, car on change d'heure, on passe à l'heure d'hiver. Vous allez retrouver Jean-François Johan, et lui, ça va se faire un plaisir de vous le rappeler. En tout cas, Jean-François est là pour vous proposer les nocturnes qui iront jusqu'à 3h du matin. Bonne nuit à sa compagnie, bon week-end à tous, et à la semaine prochaine pour une saga consacrée à Alice Cooper.